Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Bruno.
Salut Laura.
Aujourd'hui, on accueille un invité. C'est pas un artiste, mais c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique. Bonjour Nicolas Xavier.
Bonjour.
Bienvenue chez Divergence. Nicolas Xavier est aujourd'hui, il est galeriste. Il a sa galerie à Montpellier, dans l'Écusson, la galerie Nicolas Xavier. C'est une personne qui a fait du graffiti, qui a beaucoup œuvré pour le graffiti et pour l'art maintenant à Montpellier. Et il va nous parler un petit peu de ce parcours un peu original qu'il a eu. Nicolas, quel est ce parcours? Comment t'es arrivé dans le milieu du graffiti d'abord?
Oh, ça date de... Avant de découvrir ce milieu, c'est... Je pense à mon papa. Père ton âme. qui m'a transmis l'amour du dessin. C'était un fin dessinateur, il n'avait rien à voir avec le milieu illustratif ou un courant artistique ouais. dédié à l'art. C'était plus un gymnaste à l'époque.
Donc,
il avait ce don d'être un fin dessinateur. Et quand j'étais gamin, j'ai encore quelques flashs. Je lui demandais tout le temps de me faire des cirques avec des éléphants dans une arène, enfin dans... Bref, et voilà, j'en garde des souvenirs et voilà, pour moi, c'est une évidence, tout part de là, quoi.
D'accord. Et du coup, alors, donc là, ça, c'est vraiment du dessin à proprement parler. Ouais. T'étais gamin, j'imagine. Ouais. Et tu t'as découvert le graffiti à un moment donné?
Ouais, le graffiti est arrivé. Alors, avant de me mettre à faire du graffiti, c'était dans les années 86-87.
J'étais même pas née.
Il y a la breakdance qui est arrivée, enfin, qui était déjà là, mais qui est arrivée par le biais de Sydney, qui avait une émission sur TF1 à l'époque.
Mm-hmm. Tu connais Bruno.
Oui. Donc j'ai des vagues souvenirs aussi de ça, mais ce qui m'a donné surtout envie, c'est des films. Enfin, il y avait des VHS à l'époque, des vidéos.
Ah ouais.
Et elles étaient très très compliquées à trouver. Il y avait deux films qui en sortaient, c'était Break Street 84 et Beat Street. Et dans ce film Beat Street, c'était l'histoire de... Alors, il y avait une partie qui était dédiée à la danse, à la breakdance.
Évidemment.
Et il y avait aussi un groupe de graffeurs qui peignaient les métros. Et ça y a joué dans mon commencement.
Ça se passait, j'imagine, le film, c'était aux États-Unis.
C'était aux États-Unis, ouais.
Okay.
Et voilà, c'était l'histoire d'un gars qui allait peindre des métros. Et je vous ai entendu tout à l'heure parler de Toys, qui est repassé recouvrir d'autres personnes dans la rue.
Ouais.
Et il se faisait tout le temps recouvrir ses graffitis, donc il y a une histoire triste à la fin, mais voilà, c'est des souvenirs qui me font penser que le graffiti... je suis passé de la danse au graffiti par le biais de ces supports-là.
D'accord.
Et tout se révèle à ce moment-là, l'amour que je portais sans le savoir à l'art par le biais de mon papa à l'époque. J'ai commencé à faire mes premiers tags, c'était dans les années 89, et ça m'a complètement... envahi. Et,
c'était à Montpellier parce que du
c'était
coup, tu...
à Montpellier, oui.
Voilà, un enfant de la ville.
Oui, dans la banlieue, parce que moi je suis un enfant de banlieue à la base. Et voilà, c'est en 89, comme je le dis, j'ai commencé et ça s'est jamais arrêté.
Ok. Qu'est-ce qui t'a... Enfin alors, donc là tu parles de films, c'est la culture qu'il y avait autour qui t'a aussi un peu transporté. Enfin justement le fait que ce soit parlé, comme on le disait dans l'épisode de la semaine dernière, le fait que ce soit hip-hop, rap, break, qui est tout ce courant musical autour, et les graffeurs, est-ce que c'est ça aussi qui a participé à ce que ça te transporte un peu?
Oui, ce qui était... Enfin aujourd'hui j'ai plus du tout la même interprétation de tout ça, mais à l'époque c'est vrai que... toute la partie, le mouvement hip-hop, comme on l'appelait ou comme on l'appelle encore aujourd'hui, était souvent dédié aux gars de quartier. Et, Ce qui est complètement faux en soi. En grandissant, on se rend compte que c'est juste mettre des cases qui ne servent pas à grand-chose.
Toujours.
Mais oui, c'est cette culture hip-hop, c'est celle celle qui me faisait vibrer. En fait, on parle souvent d'émotions, que ce soit dans la musique ou quelque chose.
C'est indissociable à mon sens. Hein.
Merci. Et voilà, c'est celle qui me crée de l'émotion et chance pour moi. Que ça soit dans la danse ou dans le graffiti par la suite, tout était relié au hip-hop et ben moi je voilà c'était je pense écrit pour moi comme ça.
Ouais, puis il y avait ce côté domaine d'expression qu'on n'avait pas à cette époque-là qui arrivait, tout le monde pouvait s'exprimer comme il voulait peut-être aussi.
Oui, complètement. Et puis ce qui était chouette, bon, après on entend souvent dire oui c'était mieux avant, non pas du tout, c'était juste complètement
c'était
différent.
Ouais.
Et ce qui était vraiment chouette à mes yeux, c'était tout était super naïf. On avait, ouais. On avait quasiment pas de modèle, Internet n'était pas là. Voilà, je parle comme un vieux. Là, mais...
Non, mais c'est important parce que justement, comme tu dis, il n'y avait pas de modèle. Donc tu t'inspirais de films que tu voyais ou des images qui te provenaient des États-Unis, etc. Mais finalement, tu avais une complète libre expression. Finalement, tu étais influencé alors, par des courants, par des personnes, mais toi, ce que tu as fait, c'était vraiment 100% toi.
Oui, je peux le dire. J'appelais ça, moi, du graffiti agricole. C'est-à-dire que c'était tout sauf maîtrisé. On avait un modèle, je le cite parce que ça a toujours été, pour moi, un grand Montpellier qui a arrêté très rapidement, quelques années. Il s'appelait Dwayne. Et c'était un des tout premiers graffeurs à Montpellier. C'était le premier graffeur à Montpellier, donc... c'était ma seule inspiration locale.
Okay.
Et je raconte ça comme ça parce que à Paris, tout est arrivé dans les années 82-84 par le biais de Bando, des amis de mode, mm-hmm. voilà, qui est quelqu'un de particulier dans mon cœur, etc.
Que tu connais bien.
Que je connais plutôt bien, ouais. Et il nous a fallu du temps avant d'avoir les premiers magazines, les premiers liens dédiés de la capitale. Eux, ils avaient déjà, c'est pas qu'ils avaient de l'avance, mais ça reste la capitale. Donc,
ça arrivait plus vite, comme on le disait la dernière fois. C'est arrivé des États-Unis, je pense à Paris, en l'occurrence.
Exact.
Pardon. L'influence, comme tu dis, ça reste une capitale. Donc je pense que les infos, elles voyagent quand même plus vite.
Oui.
Les gens voyageaient de Paris vers New York et ramenaient avec eux toutes sortes d'objets, de magazines, de photos, de livres.
Exactement.
Avec toutes les illustrations et tout ce qui était... Donc, quand ça arrive à Montpellier, je pense que c'est avec un poil de retard, du coup.
À l'époque, c'était avec un poil de retard.
On a rattrapé le retard.
Oui, tout a été rééquilibré depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de modèle autour de nous, quasiment pas. Donc, on se dépatouillait de ce qu'on avait dans la tête, de notre créa. Et puis, c'est ce que j'en garde comme un super souvenir, ce côté naïf de la chose. C'est... Tout était fait avec spontanéité, tout était fait avec cœur, sans calcul. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de calculer,
non,
etc.
Non, mais disons que c'est la passion qui parle avant tout. Quoi,
exactement.
Finalement.
Et c'est arrivé quand même assez rapidement, 89, 90, 90 voilà, 91, les premiers magazines sont arrivés. Il y a un livre qu'on nomme, je ne suis pas le seul à le nommer comme ça, qui est la Bible du graffiti. Paris Toncar, il y en avait d'autres avant lui, c'était Spreken Art et Subway Art.
Exactement.
Qui sont aussi arrivés dans les années 91, vendus par le biais de certaines enseignes à Montpellier, je ne les citerai pas, mais certaines librairies. Et là, il y a une nouvelle étape qui s'est franchie avec des modèles et une inspiration autre.
Et puis en plus, le fait d'avoir des supports papier consacrés à ça, ça donne aussi une ampleur différente, une légitimité, excusez-moi, une légitimité à ce mouvement qu'on voit peut-être un peu moins comme underground ou marginal, mais on lui donne une place, en fait, même dans la presse, avec ses magazines et ses bouquins, il y a un essor qui prend sa place. Donc... Ça, peut-être que ça a aussi participé au fait que y a eu un engouement autour de ça.
C'est très bien expliqué.
Et on peut faire l'analogie pareil avec la musique.
Exactement.
Les DJ étaient dans les caves et puis après ils sont arrivés dans les clubs.
Exactement.
Il y a du coup des références pour de nouveaux DJ en herbe et c'est comme ça que se construit une culture qui existait déjà beaucoup,
mais
qui s'est démocratisée, on va dire.
Oui, voilà. Complètement.
Je sais qu'on n'a pas, la journée pour parler de tout ça, mais
on prend le temps.
Il y avait aussi ce qui était chouette et qu'on retrouve beaucoup moins, parce que je vous ai entendu aussi en parler tout à l'heure, c'est le côté un peu démocratisé, cet art de rue comme ils l'appellent. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes produire en rue ou avec une sélection d'œuvres qui vont être nettoyées et pas d'autres, etc. Mmh. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là parce qu'il y a aussi tout un côté politique que je n'aborderai pas.
Tout à fait.
Mais le graffiti, cet interdit aussi de l'époque, cet inconnu, moi, je pense à ma maman, la première, qui me jetait toutes mes affaires. Mais cet interdit, les gens ne comprenaient pas. Ouais. Même une bombe de peinture, un tag à la bombe de peinture sur un mur était considéré comme du vandalisme. Ouais. Aujourd'hui, on met le mot vandalisme sur une gravure faite à la pierre de voie ferrée sur des verres ou où ils taguent aussi aujourd'hui à l'acide. Ouais. Mais à l'époque, cet interdit, moi je m'en souviens, il était réprimé très très fort.
Ouais, il fallait pas se retrouver avec une bombe de peinture dans le sac. Hein,
oui. Alors j'ai une petite anecdote assez rigolote. j'ai eu la chance, parce que c'est une chance aujourd'hui, d'avoir connu cette génération-là. Ma première arrestation, parce qu'il y en a eu quelques-unes, par rapport au nombre de fois que je suis sorti, ça va encore, il y a un bon équilibre. Ils ne savaient pas quoi faire de moi en fait.
Bah oui.
Je suis arrêté en train de taguer en cœur de ville.
Parce que finalement, est-ce que c'était même dans la loi ou est-ce qu'il y avait des sanctions vraiment écrites par rapport à ça finalement, tu vois aussi.
Le délit a été écrit en 92, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne flanche pas. Et ma première arrestation, c'était dans les années 90. Et quand je disais ne savais pas quoi faire de moi, ben, j'étais mineur. Ma maman ne savait pas que je faisais le mur la nuit. Ils m'ont ramené au commissariat, ils m'ont gardé une heure sur le banc avec eux et ils m'ont dit on va te laisser partir. Quoi.
Bah oui, oui. qu'on sait que tu as fait quelque chose de mal, mais en même temps, on ne sait pas comment te sanctionner quelque
c'était
part.
C'était pas réprimable, donc.
C'est un dessin.
Moi, j'ai connu,
finalement, c'est
j'ai connu ça. Et bon, après, voilà, le délit est arrivé et puis les sanctions de plus en plus fortes sont arrivées. Bon,
on va pas
rentrer de plus en plus de monde occupait l'espace
et de
aussi.
De plus en plus de monde, etc. Bon, enfin, voilà. J'ai un peu digressé, ne m'en voulez pas. Mais
non, mais les anecdotes, c'est ce qui fait que c'est intéressant et que c'est vrai, finalement. donc, toi, tu fais du graffiti dans ta jeunesse. Années 90, tu es à Montpellier. Tu vois cette effervescence aussi, tu la constates. Tu vois qu'il y a de plus en plus de graffeurs autour de toi. Tu fais partie d'un groupe à ce moment-là?
Oui.
Mais encore.
On l'avait appelé ODM, qui voulait dire...
Est-ce qu'on le dit ou pas? Non,
oui,
peut-être pas.
On peut le dire, on peut le dire. On était des gamins, donc ça voulait dire « on détruit Montpellier ».
Aïe, aïe, aïe.
Mais en peinture.
Oui, alors on détruit Montpellier à coups de bombes de couleur, ça va, c'est gentil
voilà,
quand même.
Merci, soyons précis.
Exactement. Et du coup, tu vois, tu peignais déjà au Verdanson?
Alors, le Verdanson, mes premiers tags... Alors, le Verdanson, ça a été... je pourrais... Juste cet axe-là, je pourrais en parler. Ça me fait penser à Mickaël Delafosse, qui est notre maire aujourd'hui. Mais je vous en parle un petit peu rapidos. Mais le Verdanson, moi, j'ai commencé à y faire mes premiers tags, mes premiers graphes. Ça devait être dans les années 91, 12, je pense. Les deux premiers graffeurs qui ont vraiment fait un graphe et non des tags dans le Verdanson, c'était Attack Z et Sen 5. Deux artistes nîmois, deux génies.
Oh, des nîmois.
Les gars qui viennent chez nous.
Aïe, 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 aïe.
Parce qu'on était... Enfin, voilà, cette espèce de légende entre les
de
nîmois... De guéguerre. De pseudo-guéguerre entre nîmois et Montpellierin, ça me fait sourire. Mais bon, allez, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais... Nous, on était très, très copains avec la scène nîmoise. Ils avaient de grands talents et j'ai une pensée forte à Renaud. Renaud, Sen 5, il ne m'en voudra pas de le citer par son prénom. C'était pour moi peut-être le plus talentueux qu'on ait jamais eu dans ces années-là. C'est le mec, il était capable de nous faire des peintures élaborées en couleurs avec des contours, des dégradés, des 3D en bâton en 90. Ouais. Il avait repeint la légendaire boutique qui a fermé depuis, malheureusement. C'était une boutique dédiée aux réparations de motos dans la rue Durand. C'est la boutique Zigzag. Il avait fait l'enseigne. C'était somptueux. Moi, je passais tout le temps devant. J'étais là, je restais devant, je l'observais. C'était juste fabuleux de voir ça. En 90, c'était un mec qui était capable de faire des graffitis comme personne ne savait les faire.
Et, oui.
Et il m'a appris beaucoup. Donc oui, le Verdanson, je me suis un peu encore un peu
Écarté, mais c'est pas, parce que le Verdanson, ça reste quand même un lieu emblématique à Montpellier et une place forte du graffiti aujourd'hui qui est complètement accepté, hein, parce que c'est plus fait sous le manteau la nuit, c'est en plein jour. Ouais. On a des gens qui vont balader dans le Verdanson pour voir parce que ça reste un lieu hyper atypique, original, dans lequel se balader. Et qui a donné un peu les lettres de noblesse au graffiti à Montpellier,
oui,
finalement.
Complètement. Bah, le Verdanson, lui tout seul, il a quand même permis de rassembler et de faire venir, j'ai envie de dire, presque la planète entière. Moi, je me souviens avoir peint avec des Revoc, Rhyme, Roid, les MSK de la West Coast de Los Angeles.
Classe.
Ah, c'est la classe à Dallas. Ou Jace, notre créateur des gouzous, le Réunionnais, ou pour en citer mais des dizaines, les Barcelonais, les Six et Paredes, les
ah oui, donc vraiment
les Lamano,
du bon monde.
C'est, oui, c'est tout en sans oublier bien évidemment toute la scène locale, toutes les générations confondues. Ce Verdanson, bah, ce musée à ciel ouvert, qui a été dans un premier temps un lieu d'expression caché. Combien de fois on s'est fait cavaler par la police là-bas, ça nous faisait marrer parce que ça faisait un peu des comme à quoi on jouait quand on était gamin, aux gendarmes et aux voleurs.
Voilà. Oui, c'est ça.
Ça me faisait un peu penser à ça, parce qu'ils nous couraient derrière, mais nous on connaissait tout par cœur. Donc on leur disait toujours, allez, bonne chance. Mais non, et puis j'en parle parce que... On ne comprenait pas, c'était le déversoir des Ossales à Montpellier, le déversoir
des... On l'appelait le maire d'Anson à l'époque, d'ailleurs.
Le maire d'Anson, ouais, c'est les tanneurs. Oh,
il s'appelait bien le maire d'Anson.
Ouais, exactement. Si bah, en même temps, comme tu dis, déversoir des Ossales, les eaux de pluie, etc. Enfin, c'est pas un lieu de villégiature non plus, quoi.
Non,
donc,
et puis j'en parle un petit peu parce que ce maire d'Anson, en fait, ça me paraissait évident. Moi, je suis parti quelques années vivre à l'étranger, rouler ma bosse et sûrement partir pour grandir aussi, j'imagine.
Pour mieux revenir.
J'aimais trop ma ville, ma ville de cœur, ma ville d'amour. Et je me souviens, j'ai ouvert mon premier établissement qui était Montana Shop et Galerie.
Yes, on va y venir.
On en parlera rapidos, mais c'est là où j'ai rencontré Michael Delafosse, qui était adjoint à la culture. Mmh. Et il est venu se présenter à la boutique. On a longuement discuté tous les deux. Et on parlait de cette répression. C'est moi qui lui appuyais sur ça, à vrai dire. Et je lui disais, Michael, comment se fait-il que y ait des... Après, je peux comprendre qu'il y ait des sanctions fortes jusqu'à de la prison. La prison, je ne la comprends pas, à vrai dire. Mais... Mmh. Et on en vient à parler du Verdanson. Il m'a expliqué que ça coûtait énormément d'argent à la ville de la recouvrir en peinture ou de la nettoyer. Bref, et je lui ai dit, écoute, Michael, on a les quais du Verdanson, c'est un endroit qui ne gêne personne.
C'est ça. C'est
ce fameux canal, où on allait nous se cacher pour... déjà, on avait une action d'aller là-bas pour quelque part peindre tranquillement et se cacher aux yeux du public à qui ça dérangeait. Ouais. Et je lui avais mis ça dans les oreilles en lui disant, il m'expliquait qu'il n'était pas sécurisé. Je lui disais, mais.
Oui, parce que c'est dangereux quand même d'aller graffer là-bas. Hein.
Alors, c'est dangereux, oui et non. Oui, parce qu'officiellement, il faut dire oui. Les gamins, on ne les amène pas sans les accompagner, etc. C'est une évidence. Je suis un papa, donc je vais essayer d'être mesuré dans mes propos. Mais comme je l'ai expliqué, je lui disais, tu sais, Michael, moi, j'y peins depuis 1990. Et tout ça, ce que je vous raconte, c'est de 2007. Hein. Donc il y a quelques années qui sont écoulées entre les deux.
Oui, quelques années, ouais.
Et je lui disais, tu sais, Michael, est-ce que tu as déjà entendu parler sous ton mandat, enfin, le fait que tu sois déjà la ville, la politique, ou même avant, d'un cas qui a eu un problème.
Oui, d'un éventuel accident.
Dis-moi, ça fait 25 ans, un graffeur ne sort pas quand il pleut, donc on s'imagine qu'il ne va pas se faire emporter avec les épisodes Cévenol, etc. etc.
Et le graffeur, il n'est pas imbécile, hein.
Le graffeur n'est pas imbécile, mais après, j'avais un espèce de rôle un peu mesuré où d'un côté, je comprenais la position du politique qui avait officiellement des contraintes, etc.
Et oui, il ne pouvait pas te dire, bah si, vas-y.
Non, c'est clair. Et il s'avère, en fait, je vous fais ça rapidos, il s'avère que... Au bout de nombreuses réunions, un jour, il m'appelle, il me dit « Nicolas, est-ce que tu peux mettre en place sur une après-midi une fresque ?» On va débarquer avec, c'était à l'époque pour le projet Urbain 2040, où il voulait revisiter des lieux à Montpellier, dont le quai du Verdanson, et voir comment il pouvait le faire évoluer. Et il m'avait demandé de mettre en place une fresque avec des graffeurs, Est-ce qu'il allait passer avec la presse et ces fameux architectes pour essayer de voir comment on pourrait concevoir la suite, remodeler le Vernançon. Et ce jour-là, il est venu avec Hélène Mandrou, qui était le maire à Montpellier.
Ouais, tout à fait.
Et il y avait un parterre de presse, énormément de monde, et on avait tous pris la parole, il m'avait donné la parole, et puis j'entends Hélène Mandrou annoncer pour la première fois, j'en ai des frissons quand je vous le raconte, parce que pour moi c'était un passage dans une ère moderne pour le graffiti à Montpellier, et ce fameux quai du Vernançon, légendaire, où ça me paraissait évident qu'un jour il devienne toléré, donc autorisé. Et Hélène Mandrou annonçait aux yeux de la presse ce jour-là qu'elle autorisait la libre expression de la peinture.
Ce qui n'est pas rien, ce n'est pas anodin du tout. Enfin, on autorise là les artistes à s'exprimer avec, alors pas la complicité, mais en tout cas avec l'accord officiel de la ville. Ouais. On autorise du coup les gens à aller voir comment ça se passe et à comprendre finalement ce mouvement et cette peinture, etc. Donc c'est un grand pas en avant. Quoi.
Et puis je suis content de vous le raconter parce que c'est une histoire que je n'ai franchement quasiment jamais racontée. Il y a quelques personnes autour de moi proches qui la connaissent. Pour moi, il n'y avait pas lieu de raconter quelque chose pareil. Si on me dit, mais pourquoi, Nico, moi, c'est la seule chose qui me stimulait encore à l'époque, c'était l'amour inconditionnel que je portais à ma discipline graffiti et à ma manière contribuer, puisque voilà, j'étais devenu le référent à Montpellier. Quand je dis référent, oula, restons modestes. Disons, j'avais un lieu où les graffeurs se réunissaient, qui était le Montalin Shop, où ils pouvaient venir acheter leur matériel. On était en train de développer la galerie d'art, on pourra en parler aussi.
Alors, on va y venir justement, parce que le temps passe dans cette émission.
Mais tu le savais, Laura.
Je le savais. Mais au pire, on te réinvitera un autre jour. Du coup, on arrive justement à cette carrière dans l'art et l'ouverture du Montana Shop.
Ouais.
Toi qui es à l'origine de aussi. Ça. Hein. Explique-nous un peu comment, qu'est-ce que tu as voulu faire. Brièvement, Nicolas.
Brièvement, retour de mes années à l'étranger, enfin décidé de poser mes valises et revenir à Montpellier, ma ville natale, ma ville que j'aime tant, j'y porte un amour.
Oh là là, quelle déclaration magnifique.
Mais le pire, c'est que je le pense fort.
Mais c'est cool.
Et j'avais rencontré dans mon parcours le créateur de Montana Colors à Barcelone, Jordi Rubio Rocaber. Et voilà, ça avait super fort matché entre nous, on avait gardé un lien, on se contactait de temps en temps et j'avais entendu dire qu'il était en train de développer les Montana Shops. C'était un nouveau concept dans les années 2004-2006 où c'était une boutique et une galerie d'art dédiée au graffiti. Et Montpellier était une des places fortes du graffiti français après Paris. Et il le savait, donc il y avait une réalité de marché.
Et oui, il y avait un créneau à prendre de ce côté-là.
Et voilà, je pense que j'ai été là au bon moment. J'avais fait les bonnes rencontres dans mon parcours graffiti. Et j'ai pris contact avec lui le jour de mon anniversaire. C'était le 13 octobre 2005, j'oublierai jamais. Je suis parti à ma petite fiesta à l'époque à Barcelone, sous une pluie battante. Et on avait fait un déjeuner où il m'avait écouté pendant des heures, lui raconter comment je voyais tout ça. Et il m'a dit en une phrase, « Nicolas, concrètement, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et je lui ai dit, écoute, à demi-mot, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de demander de l'aide. Voilà, je cherche un support financier. Est-ce que tu peux m'aider à financer mon projet de boutique qui ressemblait fortement au Montana Shop et Galerie? Et il m'a dit, écoute Nico, tu fais partie des gars sur qui je pourrais m'appuyer à Montpellier, tu fais partie de la old school, je pense que s'il y en a un qui peut tenir ce que je vais te proposer, c'est toi. Donc je te propose de rentrer en France, y réfléchir, mais je veux te proposer le Montana Shop et Galerie pour la France.
Waouh.
Et j'arrivais pas à y croire et je me suis dit, mais il me demande de réfléchir, mais...
Réfléchis pas, vas-y Nico.
J'ai pas besoin de réfléchir. Et non, en fait, derrière ça, il y avait un cahier des charges qui n'était pas lourd du tout à respecter. Et en quelques mois, j'ai réussi à obtenir tout ce qu'il me demandait. Et l'aventure a commencé comme ça.
Et voilà. Et du coup, c'est le Montana Shop rue d'Alger qu'on connaît tous aujourd'hui. Enfin, pas tous, peut-être pas tous. Et toujours ouvert aujourd'hui. Mais du coup, qui a été vraiment le démarrage de toi, de ta carrière hors graffiti et doucement à aller dans l'art et dans la galerie d'art en fait.
Complètement.
tu as monté des expos dans ce shop. Comment tu es arrivé à passer du Montana Shop à la galerie Nicolas Xavier qu'on connaît aujourd'hui?
Moi, ça me paraît naturel ce qui s'est passé. Quand j'ai ouvert le Montana Shop et galerie, il y avait ce mot galerie dedans. Et je repense à quelques années avant, on avait créé des associations. En fait, j'avais des trucs à l'intérieur de moi que j'avais déjà exploité, qui étaient là, qui me faisaient vibrer. Donc, je vous ai parlé longuement de quand j'étais un graffeur dans une autre vie. Mais il y avait aussi tout un côté de moi qui aimait chapeauter, orchestrer, organiser, fédérer, rassembler. Et j'avais travaillé pour des festivals. J'avais la place de directeur artistique pour rassembler des artistes partout un peu de la planète, pour les mettre en scène à Montpellier à travers des festivals. Je vais les nommer. C'était le Festival Attitude avec Thomas Raymond.
Tout à fait.
Et c'est plein de petits moments comme ça que j'ai vécu. Et on avait créé une association avec Franck Noto, qui est un ami de vie, un ami de longue date, avec qui je travaille aujourd'hui, on en parlera aussi. On avait un collectif, on était 4-5, je vais citer que Franck. Et j'étais la personne qu'ils envoyaient toujours au casse-pipe. Le gars qui allait présenter, représenter et négocier. C'était comme ça, c'était mon rôle, j'adorais le faire. Mais sur le coup, je ne me rendais pas compte forcément de tout ça. J'avais un rôle à jouer, je le jouais. Et le passage... donc de Montana à la galerie Nicolas Xavier aujourd'hui, il y a deux axes qui sont arrivés. Le premier, c'était, je vous l'ai dit, représenter les autres. En fait, je me découvre à la création du Montana Shop et Galerie, prendre plus de plaisir à représenter les autres artistes que me représenter moi-même.
Ça, c'est trop
tout
cool.
Tout part de là. Et la suite logique de Nicolas Xavier, c'était que je savais déjà, en toute humilité, au bout de quelques années, que Montana Shop et Galerie serait juste un tremplin. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Je n'avais pas encore assez d'expérience pour me projeter chez Nicolas Xavier. Mais je savais que ça arriverait. Et c'est arrivé. Je pense que quand on croit quelque chose du plus profond de son cœur, tout l'univers conspire pour qu'on y arrive.
Je suis d'accord. T'as eu un bel alignement aussi pour arriver
et
à ça.
C'est un puzzle, tout s'est emboîté.
Oui, c'est un ensemble de choses qui ont fait que t'es arrivé, que tu t'es découvert directeur artistique, en fait, finalement.
Ouais.
Gérant d'un espace et à la fois mentor pour certains artistes.
Ouais.
Il nous reste 2 minutes, donc du coup, on va pas pouvoir aborder cette partie-là, mais
on reviendra.
Parce que c'est la première partie, du coup, d'un épisode en deux parties, on va dire, avec Nicolas Xavier, qui nous parlera la prochaine fois de sa galerie, de comment il sélectionne les artistes avec lesquels il collabore, pourquoi ces artistes-là, parce qu'il a des artistes très différents dans sa galerie, comme Franck Noto, mais comme Mathieu Lucas, pour ne citer que eux, mais qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Quel rôle il assume aussi auprès de ses artistes, de conseils, comment il les accompagne. On verra tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, je vous dis merci pour votre écoute. Merci Nicolas d'avoir fait le déplacement.
Merci de m'avoir invité.
Merci Bruno et à très bientôt.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez là, c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffitis, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, il peaufine bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.